Le chef du poste était gras et de petite taille. Carlier, son adjoint, était grand avec une grosse tête et un buste massif, juché sur une longue paire de jambes maigres. Le personnel était complété par un nègre de Sierra Leone qui affirmait se nommer Harry Price. Toutefois, pour une raison quelconque, les indigènes en aval du fleuve lui avaient donné le nom de Makola, et ce sobriquet lui était resté au cours de toutes ses allées-venues à travers le pays. Il parlait l'anglais et le français avec une intonation chantante, avait une belle écriture, s'entendait à la tenue des livres et entretenait dans son cœur le culte des esprits malins. Sa femme était une négresse de Luanda, volumineuse et fort bavarde. Trois enfants s'ébattaient au soleil devant la porte de sa case. Construction basse à allure d'étable. Makola, taciturne et impénétrable, méprisait les deux blancs. On lui avait confié un petit magasin, surmonté d'un toit d'herbe sèche. Et il faisait semblant de tenir un compte exact des perles, de la cotonnade, des mouchoirs rouges, du fil de cuivre et autres pacotis qui s'y trouvaient. Outre le magasin et la case de Makola, on ne voyait sur le terrain défriché du poste qu'un seul bâtiment important. Il était fait de bambou assemblé avec soin. Une véranda en faisait le tour. Ce bâtiment comportait trois pièces. Celle du milieu était la pièce commune. Il s'y trouvait deux tables grossières et quelques sièges. Les deux autres pièces étaient les chambres des Blancs. Chacune d'elles n'avait pour tout ameublement qu'un lit de camp et une moustiquaire. Le plancher était jonché de tout ce que les Blancs possédaient, malles ouvertes et à moitié vides, effets déchirés, vieilles chaussures, enfin... toutes les choses sales et toutes les choses brisées qui s'accumulent, comme par enchantement autour des gens négligents. À quelque distance de ces constructions se trouvait une autre demeure, sous une grande croix qui s'effondrait. Y reposait celui qui avait projeté et surveillé la construction de cet avant-poste du progrès. Ça avait été dans son pays un peintre sans succès qui, lasse de poursuivre en vain la renommée, le ventre vide, s'était embarqué pour cet endroit perdu à la faveur de haute protection. Il avait été le premier chef de ce poste. Makola avait vu mourir cet énergétique artiste dans le bâtiment dont on venait tout juste d'achever la construction, sans qu'il se fût départi de cette habituelle indifférence qui semblait toujours laisser entendre « je vous l'avais bien dit ». Pendant quelque temps, Makola était resté là, seul avec sa famille. Ses registres et l'esprit malin qui règne sur les terres équatoriales. Il faisait bon ménage avec son dieu. Peut-être s'était-il rendu favorable par la promesse d'autres blancs à duper encore à l'occasion. En tout cas, le directeur de la grande compagnie commerciale, remontant le fleuve à bord d'un petit vapeur qui ressemblait à une énorme boîte à sardines surmontée d'un abri à toit plat, avait trouvé le poste en bon ordre et Makola déployant comme toujours une diligence paisible. Le directeur avait fait redresser la croix qui surmontait la tombe du premier agent et nommé Caert à sa place. Il lui avait adjoint Carlier. Le directeur était un homme inflexible et actif qui, parfois, sans en avoir l'air, pratiquait l'humour noir. Il adressa à Caert et Carlier un petit discours où il leur montrait les perspectives avantageuses qui présentaient ce poste. Le comptoir le plus proche se trouvait à 300 000 de là. Ils avaient donc une occasion exceptionnelle de se distinguer et de s'assurer de bonnes commissions sur les affaires. Caert se sentit touché aux larmes par la bienveillance du directeur. Il répondit qu'il essaierait, en faisant de son mieux, de justifier une confiance aussi flatteuse, etc. etc. Kert avait appartenu à l'administration des télégraphes et savait s'exprimer correctement. Quant à Carlier, ancien sous-officier de cavalerie d'une armée garantie contre tout risque par plusieurs puissances européennes, il ne se laissa pas impressionner au même point. S'il y avait des commissions à gagner, ça allait bien, et promenant un regard maussade sur le fleuve, la forêt, l'impénétrable savane qui semblait couper le poste du reste du monde, il murmura entre ses dents « On verra ça d'ici peu ». Le lendemain, une fois jetées sur la rive quelques balles de cotonnade et quelques caisses de provisions, la boîte de sardines à vapeur s'éloigna pour ne revenir que 6 mois plus tard. Sur le pont, le directeur, la main à la casquette, salua les deux agents qui, debout sur la berge, agitaient leurs chapeaux et se tournant vers le vieil employé de la compagnie qui rentrait en Europe, il lui dit « Regardez-moi ces deux imbéciles. On est fou, ma parole, de m'envoyer des spécimens pareils. J'ai dit à ces deux garçons-là de planter un potager, de construire de nouveaux magasins, de nouvelles palissades et de bâtir un appontement. Je parie bien qu'ils n'en feront rien. Ils ne sauront pas par quel bout commencer. J'ai toujours pensé que ce poste sur le fleuve était absolument inutile. Ils sont parfaitement faits pour ce poste. Ils se formeront ici, répondit le vieux routier avec un sourire tranquille. En tout cas, m'en voici débarrassé pour 6 mois, répliqua le directeur. Les deux hommes suivirent des yeux le vapeur jusqu'au tournant du fleuve, puis bras dessus, bras dessous, remontant la berge, ils regardèrent le poste. Il n'était que depuis très peu de temps dans ce vaste pays ténébreux, et jusqu'alors, ils y étaient toujours trouvés au milieu d'autres blancs, et sous le regard et la surveillance de leurs supérieurs. Et maintenant, imperméables aux subtiles influences de leur entourage, ils se sentaient très seuls, livrés comme ils l'étaient à eux-mêmes. En face de cette nature sauvage, d'une sauvagerie que rendait plus étrange et plus mystérieuse ce qu'on entrevoyait en elle, de vigoureuse vitalité. C'étaient deux êtres parfaitement insignifiants et incapables, deux de ces êtres dont l'existence n'est rendue possible que par la savante organisation des foules civilisées. Combien il en est peu qui comprennent que l'existence, que l'essence même de leur caractère, leur capacité et leur audace ne sont que l'expression de leur croyance dans la sécurité du milieu où ils vivent. Le courage, le sang-froid, la confiance en soi, les émotions et les principes, toute pensée grande ou insignifiante relève non pas de l'individu, mais de la foule. De la foule qui croit aveuglément à l'irrésistible puissance de ses institutions et de sa morale, à la force de sa police et de son opinion. Mais le contact avec la pure sauvagerie, avec la nature primitive et avec l'homme primitif, fait naître dans le cœur un trouble soudain et profond, au sentiment de se trouver seul de son espèce, à cette impression de solitude des pensées, des sensations qui vous sont propres à la négation de l'habituel qui est sûr, viennent s'ajouter l'affirmation de l'inconnu qui est redoutable, la hantise de choses vagues, répugnantes et incontrôlables, dont l'insinuation démoralisante excite l'imaginaire et accable les nerfs civilisés du sot aussi bien que du sage. Kert et Carlier marchaient bras dessus, bras dessous, serrés l'un contre l'autre comme des enfants dans l'obscurité. Et ils avaient ce même sentiment, qui n'est pas absolument désagréable, d'un danger qu'on soupçonne à moitié de n'être qu'imaginaire. Ils bavardaient familièrement et sans arrêt « Notre poste est agréablement situé ». L'autre acquiesçait avec enthousiasme, renchérissant. En passant près de la tombe, « Pauvre diable !» disait Caert. « Il est mort de fièvre, n'est-ce pas ?» murmura Carlier en s'arrêtant brusquement. « Et comment ?» répliqua Caert avec indignation. « On m'a dit qu'il ne cessait de se fourrer au soleil. Le climat ici, est-ce qu'on dit, n'est pas pire que chez nous, du moment qu'on se tient à l'abri du soleil. Vous entendez, Carlier ? Je suis le chef ici, et je vous donne l'ordre de ne pas vous fourrer au soleil. » Il faisait en plaisantant état de la supériorité de son grade, mais l'intention y était. L'idée qu'il fût peut-être resté seul le rendra extrêmement mélancolique. Puis il éclata de rire, envoya une bourrade dans le dos de Caert et s'écria « On va se la couler douce ici. Suffit de se reposer et de ramasser l'ivoire que ces sauvages vont nous apporter. » Ce pays a du bon, après tout. Ils se mirent l'un et l'autre à rire à haute voix, tandis que Carlier pensait « Ce pauvre Caert, avec sa mauvaise graisse, ce serait un sale coup s'il fallait que je l'enterre ici. C'est un homme que je respecte. » Ils n'avaient pas atteint la véranda de leur maison qu'ils s'appelaient l'un l'autre « mon vieux ». Le premier jour, ils déployèrent une grande activité, allant et venant avec des marteaux, des clous et du calicot rouge. Pour accrocher les rideaux, rendre leur maison habitable et coquette, résolus à apporter plus de confort possible à leur nouvelle existence. Impossible tâche pour eux. S'attaquer à des choses même purement matérielles demande plus de sérénité d'esprit et de ferme énergie qu'on ne peut s'y imaginer. On eût trouvé malaisément deux êtres moins propres à cette lutte. La société, non pas par l'effet d'une tendresse particulière, mais du fait même de ses singulières nécessités, avait pris soin de ces deux hommes. Leur avait interdit toute pensée indépendante, toute initiative, toute infraction à la routine, et le leur avait interdit sous peine de mort. Ils ne vivaient qu'à condition d'être des machines. Et maintenant, privés de la tutelle de gens armés d'une plume derrière l'oreille ou ornés de galons d'or sur les manches, ils ressemblaient à ces prisonniers à perpétuité, qui, libérés par bien des années, ne savent plus que faire de leur liberté. Ils ne savaient que faire de leur faculté, incapables qu'ils étaient l'un et l'autre, par manque de pratique et de pensée par eux-mêmes. Au bout de 2 mois, Caert déclara à plusieurs reprises « Si ce n'était pas pour ma Mélie, on ne me verrait pas longtemps ici. » Mélie était sa fille. Pour pouvoir lui constituer une dot, il avait quitté son emploi à l'administration des télégraphes, où il avait été pourtant parfaitement heureux pendant 17 ans. Sa femme était morte et l'enfant avait été confié aux soins de ses tantes. Il regrettait les rues, les trottoirs, les cafés, ses vieux amis, tout ce qu'il avait l'habitude de voir chaque jour, toutes les pensées que lui inspirait la vue des choses familières, les pensées faciles, monotones, apaisantes d'un employé du gouvernement. Il regrettait les potins, les petites inimitiés, le venin subtil et les fines plaisanteries des bureaux de l'administration. « Si mon beau-frère avait été un garçon convenable, déclarait Carlier, un homme de cœur, je ne serais pas ici. » Il avait quitté l'armée et s'était rendu si odieux à sa famille par sa paresse et son impudence qu'un beau-frère exaspéré avait remué ciel et terre pour lui procurer cette place d'agent de seconde classe de la compagnie. Comme il n'avait pas un sou vaillant, force lui avait bien été d'accepter ce gagne-pain. Lorsqu'il se fut convaincu qu'il n'y avait absolument plus rien à tirer de sa famille. Lui aussi, comme Caerte, il regrettait son ancienne existence. Il regrettait le cliquetis de sabre et des éperons par un bel après-midi, les plaisanteries de la chambre et les filles des garnisons. Mais il avait en outre un sentiment de rancune. Il était victime d'une injustice, et cela lui donnait de temps à autre des excès de mauvaise humeur. Mais la communauté de leur stupidité et de leur paresse créait une entente entre ces deux hommes. L'un et l'autre ne faisaient absolument rien et jouissaient d'une oisivité rétribuée. Ils en arrivèrent même à éprouver l'un pour l'autre quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Ils vivaient comme des aveugles dans une vaste pièce, n'ayant conscience que de ce qui entrait en contact direct avec eux, et encore imparfaitement, mais incapables de saisir l'aspect général des choses, le fleuve, la forêt, toute cette étendue de terre grouillante de vie n'était pour eux qu'une vaste solitude. Chant colonial. La petite tonkinoise, 1906. Pour que je finisse mon service, au Tonkin je suis partie. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles. Et je suis devenue le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelait Melaoli. Je suis gobée d'une petite, c'est une anamite. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un petit oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkinoise. Il y en a d'autres hein, qui me font les yeux doux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Le soir, on cause des tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie de la Chine, de la Mandchourie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. Très gentille. C'est la fille d'un mandarin très fameux. C'est pour ça que sur sa poitrine, elle a deux petites mandarines, peu gourmandes. Elle demande, quand nous mangeons tous les deux, qu'une banane. C'est peu coûteux. Moi, je lui en donne autant qu'elle veut. Mais tout passe et tout casse. En France, je dus rentrer. J'avais le cœur plein de tristesse de quitter ma chère maîtresse. L'amant peine, ma petite reine, était venue m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis, dans un baiser, ne pleure pas si je te quitte. Titana, titanamite. Tu m'as donné ta jeunesse, ton amour et tes caresses. T'étais ma petite bourgeoise, ma tonkinoise. Dans mon cœur, je garderai toujours le souvenir de nos amours. La Tonkinoise, chantée par Miss Tinguette et Joséphine Baker. C'est moi qui suis sa petite, son nana, son anana, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Je m'appelle ma petite bourgeoise. Sa tonkinoise. D'autres lui font les yeux doux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Le soir, on cause des tas de choses avant de se mettre au pieu. J'apprends la géographie de la Chine, les frontières, les rivières, le fleuve jaune, le fleuve bleu. Et même l'amour, c'est curieux, hein, qu'arrose l'empire du milieu. mon amant de la coloniale. Raymond Asseau, 1936, chanté par Édith Piaf. Il était fort et puis si tendre que dès notre premier soir, je sentais que je ne pourrais plus me reprendre et pour toujours j'étais à lui. Je voyais toutes les femmes lui sourire. Moi, je me cramponnais à son bras et je les regardais pour leur dire « Il est à moi, je ne le lâche pas. » C'était un gars de la coloniale. Il avait là, partant du front et descendant jusqu'au menton, une cicatrice en diagonale. Des cheveux noirs, des yeux si pâles, la peau brûlée par le soleil. J'en ai plus jamais vu de pareil. Ah, mon amant de la coloniale. Des fois, quand il avait des fièvres, il parlait trop et j'avais peur. Je mettais la main sur ses lèvres pour ne pas connaître le fond de son cœur, car je sentais que dans son âme, il y avait des larmes et du cafard. Longtemps, j'ai cru que c'était une femme. Quand j'ai compris, c'était trop tard. Alors j'ai connu ma rivale. Alors je l'ai serrée fort dans mes bras pour que cette grande garce de la coloniale lui foute la paix et ne me le vole pas. Et lui, il m'avait dit « Je reste ». Mais un beau jour, il est reparti vers ce pays que je déteste, dont il rêvait toujours la nuit. C'était un gars de la coloniale. Il portait là, partant du front et descendait jusqu'au menton, une cicatrice en diagonale. Je reverrai plus ses beaux yeux pâles, ses yeux qui n'ont pas leur pareil. Il est reparti vers son soleil, mon bel amant de la coloniale. Qu'as-tu fait, John ? Michel Elmer, 1947, chanté par Édith Piaf. Dans le cœur de la Louisiane, John, sous un soleil de plomb, travaille près de la savane dans un grand champ de coton. Il transpire à grosses gouttes. Il a chaud, il n'en peut plus. Lorsque soudain, sur la route, une foule est accourue vers le pauvre John qui tremble. Marguerite lève le doigt à la foule qui se rassemble. Elle dit « Il s'est jeté sur moi !»« Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ?» Il s'est jeté sur une femme blanche. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? Il avait trop bu dimanche, ivre comme un portefeuille. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? On emmène John au village, à la maison du shérif. Tous les blancs, hurlant de rage, réclament un jugement hâtif. C'est un salaud qu'on le pende pour leur donner une leçon. John gigote sous la branche. Un frisson, puis c'est fini. Les hommes blancs, les femmes blanches vont se coucher la nuit. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? Faut pas toucher aux femmes blanches. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? T'as l'air fin au bout de la branche. T'es pendu et c'est bien fait. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? Sur la maison qui sommeille, Margaret frappe à grands coups. Le shérif se réveille, lui demande « Que voulez-vous ? » « C'est moi qui voulais le nègre, dit-elle. Je viens m'accuser, c'est moi qui aimais le nègre. Puis John m'a refusé. » Le shérif est en colère. « Oh, que d'histoire pour un noir ! Allons, faut pas vous en faire comme ça. Bonsoir, Margaret, bonsoir. » « Qu'as-tu fait, John ? » Qu'as-tu fait ? Refuser une femme blanche. Qu'as-tu fait, John ? Qu'as-tu fait ? Te voilà pendu à une branche. Une voix répond dans le vent. Il est plus heureux qu'avant. John est au paradis, où les pauvres nègres prient. John est maintenant joueur. Il est à la boîte du bon Dieu. beaucoup.